Alright. Now, ladies and gentlemen, this is Rockers.
J'ai fatigué.
Ah oui, c'est vrai, vous avez une tête. Mais vous avez une de ces têtes.
C'est clair.
Sans oublier notre...
Tom en pleine forme.
Oui, ça sent là.
Ouais.
Rien, vous êtes arrivé les mains vides. Même pas de sandwich, de morceaux de
pâté. Non, parce que j'ai prévu que ce soir, on irait manger au resto.
Au restaurant, c'est-à-dire au kebab.
Et pourquoi on va aller manger au kebab du coin?
Parce que c'est la dernière.
Alors, pas tout à fait la dernière, je vous rassure, en tout cas pour ceux que ça rassure.
Ah oui.
Mais la dernière de la saison, s'il en est, puisque on est le 28 juin, il n'existe pas encore dans le calendrier français de 35 juin. Et comme on finit à la fin juin, c'est comme ça.
Mais c'est partir pour mieux revenir, parce qu'on va revenir forcément en mois de septembre.
On reviendra.
Normalement, parce que pessimiste comme vous êtes, il va bien nous avoir quelque chose. Non, ça va.
Je crois que je vais dans un des aéroports les plus dangereux d'Europe, mais à part ça...
C'est-à-dire Notre-Dame-des-Landes
celui-là, il n'est pas dangereux, il n'y en a pas.
Mais il paraît qu'il est dangereux, là. Surtout quand vous le traversez.
C'est marrant, on n'en parle plus, ça c'est marrant. On va pas mélanger. Donc,
Écoute les Green News si on est mercredi.
C'est plus ça.
On écoute les Green News si on est dimanche. On écoute les Green News si en tapant les Green News sans X, sans S sur Internet. Et cet été, il y aura une espèce de best-of des Green News, puisqu'on sera pas là, on sera pas là, quoi.
D'ailleurs, faut qu'on choisisse les émissions à rediffuser.
Ça y est, regardez, j'ai tout là.
Vous avez tout fait.
Tout. Il reste maintenant à mettre des croix.
Dis donc.
Et ça, c'est pas...
Vous avez recopié toutes les émissions depuis le début.
Bien.
Je suis un visuel. C'est comme ça que je mémorise. Et j'ai pu mettre ça sur un post-it. Le problème, c'est l'histoire de vue. Mais là...
Mais là, c'est très bien.
Clac, clac, clac. Et le problème, c'est de mettre des croix pour sélectionner les émissions de l'été. Et ça... Ça va être une autre histoire.
De toute façon, l'été, personne n'écoute.
Mais si, il y a des gens qui vivent à Rennes l'été. Bon, il paraît.
Do I have to wait? Oh, for you and let me know? Won't you let me know? Yeah, won't you let me know? Won't you let me know? Oh, darling, won't you let me know?
Ah, et on faisait très rhythm and blues, hein, ensemble.
C'est normal, c'est l'été, c'est
ouais,
les vacances.
On se retrouvait en Louisiane, avec un peu de pluie, une humidité, alors qu'il fait encore à peu près chaud.
Ouais, il fait pas, il fait pas encore trop vilain. C'est la première fois que je vous ai dit que c'était pas mal d'avoir un peu de pluie pour les quelques fleurs de jardin. C'est, je vous ai dit ça au mois de juin, vrai, on aura tout vu.
Oui, non, mais depuis qu'il est là, c'est plus pareil, ça fait depuis qu'il est là, les choses ont changé.
Ce qui ne changera pas par contre, mon bon Jean-Loup, c'est la présentation de l'émission. Ouais. À savoir aujourd'hui, l'émission encore complètement bourrée.
Bourré, c'est le cas de dire, puisque c'est la dernière.
C'est la dernière, et du coup, nous recevons plein de monde.
On s'était dit finalement, pourquoi on n'aurait pas fait une espèce de petit récapitulatif.
Un petit bilan.
De l'année. Et on a téléphoné aussi à droite à gauche, un peu dans le style, que sont-ils devenus apparemment, il y en a qui sont devenus riches et célèbres, d'autres un peu moins. On a contacté.
Ils sont tous célèbres.
Quelques personnes.
Chez les Grignoux.
J'ai lancé mes filets, mais je devais être dans un mauvais courant, comme d'habitude. Et vous, Roger, avec votre simple, avenot, hop, vous avez pêché des kilos.
Et avec un téléphone, vous voulez, je vous montre mon téléphone. Il n'a absolument rien à voir avec le vôtre, mais celui-là, il marche pour choper des gens.
Je suis sûr que vous avez Poutine en direct là-dessus. C'est à touche 5. Je crois que j'en ai plus longuement.
Bref, du coup, nous recevrons, non plus dans le désordre, ça y est, je me suis enfin remémoré de l'ordre, nous recevrons Sarah qui nous fera la gentillesse de nous parler un peu du roller derby.
Ah, le roller derby.
Ouais, on aimerait bien savoir où en est l'équipe. Bilan, à mon avis, je pense que ça va être la pause, hein, l'été, ça va être comme tous les sports.
À vous parler en termes sportifs, moi je parlais en termes de fractures.
Non, absolument pas, vous êtes méchant. Donc voilà, Sarah va venir nous, par téléphone en tout cas, nous a fait la gentillesse d'accepter de nous faire un petit bilan et perspective du roller derby.
Et c'est vrai qu'il faut signaler que vous avez été dépucelé du roller derby. C'était en janvier, février, si je dis pas de bêtises.
Comme ça, c'est très très bien. J'ai presque assez vite compris les règles. C'est ça qui m'a surpris. Puis nous recevrons Franck que nous dérangerons à Paris pour qu'il nous reparle de son chausson connecté. Ils faisaient partie d'une espèce de concours et plus il y avait de gens à se connecter, eh bien on va voir si effectivement le passage chez les Grignoux lui a permis d'avoir plus de connexions et lui a permis d'être sélectionné, voir un jour son chausson connecté vivre et si à voir le jour, si j'ose dire, pour un chausson. Et voilà. Puis ensuite, nous recevrons Claire de l'association Vigile Oust. Rappelez, comment dirais-je, ce projet meunier un petit peu pharaonesque au cœur d'une Bretagne verdoyante.
C'est pour chercher de l'or quand même, oh là là.
Et justement, ce serait, en tout cas, ce que je sais, moi, c'est que depuis qu'ils sont passés chez les Grignoux, y a-t-il cause à effet, vous allez me demander, je vais vous dire. Oui, puisque après être passé chez nous, on les a vus, enfin moi je les ai vus dans le Canard Enchaîné, mais ils ont été également, on a parlé d'eux dans Libération et dans d'autres journaux encore. Ils ont refait une manif, il y a eu du monde, donc c'est bien cool. Et enfin, votre petit chéri que vous avez chopé.
Oui, Pascal Sacleux, vous savez, l'émission qu'on avait fait sur... il avait photographié des roues, en fait. Et on avait appris plein de choses sur les roues. Du style que les roues, c'est des gens comme nous, en fait. Que
C'était surtout vous qui a appris.
Pas une maladie. C'est pas une maladie qui s'attrape. On peut serrer la main à un roue, faire la bise à une rousse.
Ouais,
et même quand on a le gène défectueux dans le sang, on n'est même pas sûr d'avoir les enfants roux. Parce que c'est une rareté. Je me suis réconcilié avec les roux.
C'est surtout parce que vous attendez quelque chose,
et parce que le roux aussi vieillit mieux. J'ai l'impression que le châtain ou le brun, en fait.
Il vit mieux, vous trouvez?
Il vieillit mieux.
Ah oui. Ah, mais attendez, je crois qu'il fait du sport aussi.
Mais quand même, ça va.
Donc il viendra nous faire un bilan sur l'expo, nous rappeler si elle est encore présente, je ne sais pas.
Il va nous lire tout ça, puis apparemment elle va déménager à droite à gauche pour exposer tout ça. Voilà, un petit 10 à la programmation.
Roger.
Et ouais, puisque alors, je suis deux. Et donc, c'est quoi qu'on avait choisi, je ne sais plus.
La grosse lune.
Oui, ça c'est bien, The Big Moon.
gonna get this perfectly right. I'm gonna get this perfectly right. I've been trying to catch a knife for a lifetime. I'm gonna get this perfectly right. He said I'm gonna shoot the perfect bullseye. I'm not your guy. Sorry, I'm not.
Maintenant devenu une habitude, les grignoux ont en chaque début d'émission et chacun leur tour une rubrique personnelle.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
C'est ça Philou, t'as tout compris. C'est un petit peu entre le clin d'œil, le coup de gueule du moment, mais aussi le détail de la vie trépidante d'un grignou.
C'est ça en fait, tu vois le truc.
Maintenant, le problème va être de savoir qui a l'honneur d'ouvrir le micro aujourd'hui. Et ça, c'est pas facile.
Attendez, attends, tu me laisses parler.
Ah, il est en train de me virer par la violence. Oh, c'est ça, vous.
C'est ça, en fait, tu vois le truc.
Et oui, c'est ça la rubrique perso.
Bon, bah, ça va être rubrique à Roger.
Ah, bah, voilà, encore une fois.
Restructurant.
On récompense le travail des fiches imprimées, vous avez vu, avec mes petites mains. Je les
Regardez-moi mes fiches. Quelle est la particularité de mes fiches? Elles sont écrites avec quel type de crayon?
Un crayon de bois.
Ouais, pour éviter justement. Ouais, pour éviter parce que c'est ce qu'il y a de plus sain pour l'écriture.
Bah oui.
Et regardez derrière mes feuilles.
C'est des vieilles feuilles.
Des vieilles feuilles recyclées, voilà.
Ouais, bien.
C'est tout ce que je voulais montrer.
Oui, mais attendez, vous aviez juste à noter des titres d'émissions, alors que moi, il s'agissait d'autres choses, de dépêches de l'AFP, d'articles soigneusement choisis à travers la presse nationale et internationale. Et on va commencer par un sujet qui vous tient à cœur, votre petit chéri, à savoir... Emmanuel Macron.
Ah, j'ai cru que vous avez même parlé de Mélenchon.
Non, là. Macron. J'ai prévu de vous parler de la Mélenchon, mais plus tard. Vous n'êtes pas encore assez énervé.
Non, il sort de la cravate. Oh, on en viendra pour la cravate. Là.
Non, non. Alors, justement, il se trouve...
Depuis qu'il est là, j'ai l'impression qu'on l'a dit, François Hollande, et là, on va se faire chier, on n'a rien à dire. J'ai un peu que c'est un... Avec Macron, le même sentiment, il est arrivé, il est à 65% d'avis favorables alors qu'il a rien fait. Le Premier ministre Gérard Philippe, Édouard Philippe...
Ouais, là, appelez-le Gérard, moi je trouve que personne ne lui prévra.
Qui sort du Diable Vauvert, du Havre, hop, est à 75% d'opinion positive.
Personne n'y comprend rien.
Il fait beau. Il fait alors, même justement. Chaud. Il y a juste une petite pluie, vous savez, un peu comme sous les tropiques, qui rafraîchit l'atmosphère. Tout va bien.
Sauf que, aujourd'hui, quand même, premier couac, là, comment le chômage recommence à augmenter.
Oui, mais la croissance, par contre, est...
Oui, mais là, comment l'usine de la souterraine va quand même fermer. Ah, ah! Vous savez, ces pauvres malheureux, là. Est-ce qu'il avait été les voir? Non, c'est pas ceux de la souterraine qu'il avait été voir. C'est dans le nord qu'il avait été, il me semble.
Ouais,
une autre boîte. Ouais. En tout cas, j'ai encore chopé des articles. Alors, c'est vrai que vous avez raison, hein. Il a une cote au beau fixe, alors qu'ils n'ont encore rien fait. Ils attendent que tout le monde soit parti en vacances pour assassiner le roi du travail.
C'est quand même habile. J'ai pas dit que j'étais d'accord avec le procédé.
Mais
c'est
je sais pas si c'est habile, mais en tout cas, tout le monde en veut, puisque faut savoir qu'à Toulouse, un candidat, Les Républicains, battu aux législatives, a demandé l'annulation des élections parce que le candidat qui lui a été opposé, naturellement un candidat En Marche, qui a gagné, Pierre Cabaret avait été désinvesti. Mais il avait été désinvesti trop tard, donc il avait magouillé pour laisser l'étiquette En Marche sur l'affiche, et du coup il a balayé le candidat LR. Et ça a été véritablement un phénomène complètement dingo de voir ainsi, du jour au lendemain, les gens avaient envie de voir La République En Marche. C'est assez surréaliste, à tel point qu'un député socialiste qui était plus ou moins macroniste, mais sans le dire et tout, j'ai lu ça dans le Canard d'aujourd'hui, avait été voir Laurent Fabius pour dire « Oui, Yves, est-ce que tu peux faire en sorte qu'ils mettent pas de candidat LR dans ma circo, parce que comme ça, j'aurai plus de chances de gagner. » Fabius va couiner auprès de Macron, Macron accepte, et le problème, c'est que les petites mains de En Marche sont gourées de circonscriptions, et ils lui ont laissé un opposant, et ils en ont pas mis dans une autre circonscription, et dans l'autre circonscription, c'est le socialiste qui n'a conclu aucun accord de souterrain qui a gagné, parce qu'il avait pas de candidat en marche face à lui. Bref, pour ces élections-là, même si on avait mis une chèvre avec un autocollant En Marche sur le cul, elle aurait été élue.
Et qu'en est-il aussi avec la polémique entre Manuel Valls et...
Alors, je sais pas, elle devait déposer la candidate malheureuse de la France Insoumise,
oui,
elle avait jusqu'à
preuves.
Ce soir pour déposer le dossier. Apparemment, elle s'en est acquittée, d'après les dernières nouvelles. Et puis, faudra voir. Après, il faut laisser... c'est 123 voix, hein. C'est chaud les marrons. Autre nouvelle, toujours avec Macron. Alors, il y en a un qui a, vous savez, comme on rappelait, de Johnny Hallyday. Il n'est pas encore mort. Maintenant, il fait un espèce de spectacle qui s'appelle Les Vieilles Canailles. C'est épouvantable. Avec Thierry Luron, Jacques Dutronc, non pas Thierry Luron, il est mort. Eddie Mitchell, Jacques Dutronc et Johnny Hallyday.
Et vous savez pourquoi en fait
je m'en fiche, vous allez nous le dire. Non mais vous allez nous le dire, moi je termine mon histoire à propos des Vieilles Canailles. Naturellement, au dernier spectacle des Vieilles Canailles, on a eu, comment il s'appelle, Édouard Macron avec sa jeune femme, Bernie. Donc comment elle s'appelle celle-ci?
Vous parlez
Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été au spectacle de Johnny Hallyday, et Johnny Hallyday sur scène a témoigné de son soutien à Macron. Alors c'est rigolo parce que Johnny Hallyday a toujours tourné à droite, cet homme-là. Il y a une constante, là il tourne à la mi-droite, mais en fait il a toujours tourné avec le président. Et de voir le look à la femme de Macron, un concert de Johnny Hallyday qui célèbre le président, on se croyait chez Pompidou et on s'attendait à voir surgir Lino Ventura parmi les spectateurs. Il n'y a que Jacques Dutronc quand même qui l'a appelé Napoléon Macron. Voilà. Est-ce que c'est une blague entre Jet Set? Je sais pas. Alors vous, les vieilles canailles, vous l'ignorez.
Non, tout simplement parce que j'ai appris ça récemment. En fait, ces trois-là se connaissaient depuis leurs 15-16 ans, habitaient le même quartier, ont fait leur carrière. Je crois que c'était des amis.
Qui ça, Johnny Hallyday et Macron?
Non, Johnny Hallyday, Eddie Mitchell et Jacques Dutronc, en fait, habitaient le même quartier, se sont connus à la même époque. Et je crois que c'était des gens qui s'étaient rencontrés bien après dans le showbiz, etc. Quelque part, ce sont des potes d'adolescence, on va dire, qu'on fait carrière en même temps et puis qui se réunissent. Vous savez, nous, quand on refera le concert des Ramon Lopez et des Poètes Martyrs pour nos 70 ans, on sera peut-être des vieilles canailles aussi, quelque part.
Jamais, plutôt mourir qu'être une vieille canaille. Allez, une dernière avant un morceau de votre programmation, Jean-Loup. C'est Jolène Royal. Revient, c'est marrant, il y a des vieilles haines cuites et recuites et mal cuites. C'est Jolène Royal revient sur la campagne de 2007. Vous savez, alors qu'elle était en deuxième position face à Sarkozy, elle avait tendu la main à Bayrou. Et Bayrou, il s'était fait prier, puis finalement, il l'avait envoyé bouler. Et là, elle ironise en disant qu'en fait, il ne voulait pas, alors qu'elle lui avait proposé Matignon, il avait refusé, pensant, si vous voulez, qu'il voulait pas être le numéro 2 d'une femme et que la prochaine fois, ça serait la bonne. En fait, la fois suivante, il a fini quatrième, et puis là, cette fois-ci, il aurait été ministre 15 jours. Et apparemment, je veux pas vous gâcher le moral, hein. Enfin, c'est surtout comment il s'appelle notre ami Jerry, hein, qui était bérouiste.
Oui, oui.
Mais apparemment, le financement du Modem va occuper les avocats de Bérou pour tout l'été. Il a un petit peu dans la mouise.
Ouais, et puis c'est quand même royal, vous savez, face à Sarkozy en 2007, elle s'est autant plantée que Marine Le Pen face à Macron. C'était pitoyable. Vous savez, le face-à-face.
Moi, je l'avais pas vu. Je regarde peu, moi, ce
genre de débat. Non, je ne m'énerve pas, alors qu'il était en pleine crise d'hystérie.
Mais vous l'aimiez pas parce que c'était une femme.
Non, parce que... C'est vous qui me dites ça, Roger.
Oui, parfaitement.
Allez, on s'écoute un petit disque. C'est peut-être mon tour, là, non? Peut-être?
Ouais,
peut-être
c'est votre tour, le macho.
Bah, peut-être, c'est parti.
Viene del viento, no miento, es un sentimiento.
Bah voilà, alors que Roger, vous avez un nouveau portable, Roger, là, là.
Non, voilà, regarde. Mais moi, mon portable, il marche, et grâce à mon portable sur lequel figure tout un tas de numéros, eh bien, Tom, si Dieu veut, va envoyer notre premier invité. C'est Sarah pour le roller derby.
Voilà, donc ça correspond pas forcément à l'ordre chronologique des émissions, les impératifs horaires
de chacun et de chacune ont fait que effectivement ça ne correspond pas à la chronologie, mais chronologie sur laquelle on ne manquera pas de revenir vu l'immense travail de collectage d'informations que vous avez fait, mon bon Jean-Louis. Oui. C'est totalement incroyable.
C'est une émission qui est passée le 8 février et justement on avait un tiens, vous en direz quelques mots peut-être tout à l'heure. On avait un mieliste en parallèle de l'émission. Un mieliste.
Ah, un mielleux.
Moi, j'ai marqué mieliste.
Un mieliste, c'est mieux que mielleux, parce que mielleux, on pourrait, c'est monsieur Jean-François, Pierre Javaudin.
Alors, roller derby, c'est vrai que ça fait souvent qu'on voit Sarah et ses copines qui nous parlent un petit peu de ce sport, je dirais un petit, light. Vous avez trouvé ça un peu brutal, vous, Roger?
Non, au contraire, j'ai même trouvé il y avait tout un côté un peu élégant au niveau de l'acrobatie. Vous savez, quand elle s'appuie sur l'espèce de tampon qu'il y a à l'avant du,
je sais pas comment ça s'appelle, du patin.
Du patin, voilà.
Ouais. Bah, allô, je crois que justement, Sarah est à l'antenne. Allô? Ah, je vous entends, mais alors de très très loin. Allô?
Oui, m'entends-tu?
Ah, ça y est, on vous entend très bien. Eh bien, en tout cas, c'est très gentil d'avoir accepté de passer un petit peu de temps avec les vieux grignoux. Vieux grignoux chez lesquels vous venez, vous et vos amis, régulièrement, afin de parler du roller derby. On se disait qu'en cette émission de fin de saison, on aimerait bien faire un petit bilan avec certains de nos invités. Vous êtes la première à avoir accepté et à vous y coller. Donc, du coup, est-ce qu'on peut dire, par exemple, que le roller derby, pour votre club, c'est une bonne saison, la saison 2016-2017?
Alors pour notre club, c'est une bonne saison, parce que nous, de toute façon, à partir du moment où on joue, généralement on est contente. On a joué, donc c'était bien. Sinon, on a joué les championnats cette année.
Ouais.
Avec une des équipes qui était en championnat, en National 1. On s'est maintenu tout juste en National 1. On fera mieux l'an prochain.
Bon.
Avec une saison qui a été un petit peu compliquée, parce qu'on a eu beaucoup beaucoup de départs en début d'année. Et qu'il a fallu reconstituer toute une nouvelle équipe avec des joueuses qui se connaissaient pas forcément très bien, qui savaient pas jouer ensemble. Ça y est, on est prêts pour l'an prochain, là.
Alors justement, c'est la question sur laquelle est-ce qu'au niveau du recrutement, le fait que
moi j'ai été surpris, parce que comme dit Jean-Loup tout à l'heure, Jean-Loup en a parlé, j'ai découvert votre sport cette année lors d'un tournoi que vous aviez organisé, et il y avait quand même pas mal de monde. Est-ce que au niveau du nombre de spectateurs, est-ce qu'il y a de plus en plus de monde, parce que c'est ça aussi qui est important, je pense, non?
Nous, ça nous fait toujours plaisir, effectivement, quand on a beaucoup de monde et qu'il y a une super ambiance dans la salle. Alors, on n'a pas toujours autant de spectateurs, ça dépend un peu des week-ends sur lesquels les matchs tombent aussi. Mais l'étape de championnat sur laquelle vous étiez venu, oui, il y avait beaucoup de monde, parce que c'était week-end de championnat aussi, donc du coup, des équipes plutôt bien classées, des beaux matchs, et voilà, les gens, en fait, commencent à être un peu plus connaisseurs et à se déplacer plus sur ce type d'événement.
Une petite question, vous allez bien, la santé, tout va bien?
La santé, tout va bien, oui.
Voilà, non, mais là vous n'avez pas de bras dans le plat, ni de béquilles.
Mais non, c'est fini, ça. On s'est vu il y a 2 ans, effectivement, je ne me suis pas blessé depuis 2 ans.
Oui, mais c'est ça, les vieux, Sarah. Ils n'oublient jamais, ils radotent, ils racontent toujours les mêmes choses.
Voilà, c'est peut-être la première impression après qui domine. Là.
Alors, au niveau du recrutement, vous avez dit que vous avez complètement reconstitué pratiquement votre équipe.
Ouais, on avait en fait chez Roller Derby Rennes, on a les déferlantes, l'équipe avec le plus haut niveau, qui jouait en national cette année, les vilaines juste en dessous. Là, on a pu en fin de saison recréer une troisième équipe parce qu'on a eu du monde à arriver.
Ah bien.
Qui s'appelle la Mortal Kombat, qui est une équipe de loisirs, qui jouera jamais en compétition. Et donc, du coup, en début de saison, là, cette année, on a eu plusieurs filles qui jouaient en vilaine l'année précédente, qui sont montées en déferlante, pour combler les trous aussi, parce que, voilà, on avait plein de déferlantes à être parties. Et au final, ça nous a fait une nouvelle équipe, qui a appris à se connaître et à jouer ensemble, quoi. Mais on a recruté assez pour avoir du monde formé en fin d'année, pour avoir carrément la troisième équipe qui revient, donc on est plutôt contents.
On pourrait même sponsoriser une équipe, en fait, qu'on pourrait appeler les Grignouz.
Oui.
Pour ça, oui.
Écoutez, je vous propose d'envoyer une lettre de candidature. Si on en parle, parce qu'on prend toutes les décisions collégialement, donc du coup, voilà.
Ah, je pensais qu'un chèque, ça aurait suffi, mais bon, si vous voulez que je vous envoie une lettre, je vous envoie une lettre.
Les deux peuvent être très bien, parfois on encaisse le chèque sans répondre à la lettre.
Ah bah voilà, et vous avez bien raison. D'autre part, alors, comment, sur un point de vue plus privé, c'est marrant, comment je pensais à vous l'autre jour, car notre ami Grovitch, qui n'est pas encore là, est enfin parvenu à fabriquer sa bière, bière qu'on a, on avait d'ailleurs reçue à Bieler, comment dirais-je?
À
l'émission. Y êtes-vous parvenu?
Non, absolument pas. On en a parlé et puis je n'ai pas eu le temps.
Ça va, ça n'a pas explosé sur le balcon?
Non.
Eh ben écoutez, on vous remercie Sarah d'avoir accepté d'intervenir un petit peu ce soir. Et la saison, ça reprend quand? C'est comme le foot avec une pause l'été ou ça reprend assez vite?
Ouais, là on a notre dernier entraînement demain soir. Et puis les salles vont être fermées jusque fin août, on reprendra fin août.
D'accord.
Et donc si des gens sont intéressés, dès fin août, effectivement, ils peuvent vous contacter pour essayer de jouer avec vous.
Ouais, pour rejoindre la ligue tout du moins, il y a toujours cette petite période de formation là où on apprend à patiner, on apprend les règles, on apprend à s'habituer un peu. Qui dure à peu près 6 mois et puis après on peut rejoindre une équipe. Mais oui, dès fin août, début septembre, on va commencer à recruter du monde, ouais.
Yep. Et une dernière question, parce qu'on s'interrogeait sur le nom, comment il s'appelle, l'espèce de petit tampon qu'il y a juste en dessous, à l'avant du roller, le patin lequel vous marchez, en fait.
Ouais, en français, c'est vrai qu'on dirait plutôt un tampon, ouais, ou un frein, mais on dit assez peu ça. Nous, on utilise beaucoup d'anglicisme, alors on appelle ça les stoppers.
D'accord. Ouais, parce que c'est impressionnant, ça, ce truc-là. Voilà, voilà. Eh ben, écoutez, on vous remercie et puis on vous dit à très bientôt.
Oui, à bientôt, bonne soirée.
Au revoir.
Au revoir.
Merci Sarah. Et on peut rappeler que justement cette émission du 8 février, il y avait le fameux mieliste qui vous avait bien impressionné, Roger.
Pierre Javaudin, c'est
voilà,
bien ça.
Voilà, c'est celui qui apprenait à comment installer sa propre ruche dans son jardin. Là.
Ouais, des petites ruches. Et c'est vrai que à mon avis, il faut quand même un petit peu d'espace, espace dont je manque encore un peu en ville. Mais c'est marrant, l'autre jour, je voyais sur un fond d'écran de Canal B la pub publicité pour une photo du miel du commissariat de l'ATA à Rennes et sur la poste d'ailleurs la poste vous savez comment les chèques postaux là comment le sur le mail il est sur le mail je crois qu'il y a 6 ruches je crois et il y a le miel de la poste comme il y a désormais le miel de la police.
Ouais, enfin vous manquez un peu d'espace, je suis sûr que vous donneriez un coup de tondeuse, c'est 2 hectares que vous gagnerez sur votre terrasse sans problème. Oh là là.
Eh ben, on s'écoute un petit digue sur la programmation à qui? À Tom.
Tom, oui, avec Henry Brooks, Mini Skirts.
Bien.
Get around, everybody! I got something I want to put on your mind while I've got some time. Ha. Everybody's talking about those mini skirts. But as for me, I love. Baby, you look so sweet from your head to your feet. Flirt now. I just love your miniskirt.
beautiful girl. And I can't help saying, but I saw your horns when you stepped up on your toes. Damn. I ain't no flirt, no. I just love your miniskirt. Double up on Elijah. Ow! Double up on it. Come on, baby. I wanna stay at home, y'all.
Donc toujours dans le récapitulatif des émissions, vous savez qu'on a commencé le 14 septembre avec un scoop, on l'a eu avant tout le monde, même Yann était mort de jalousie parce qu'on l'avait reçu.
Elle était jalouse.
Oui, elle était verte, on a reçu pendant quasiment une heure et demie Christophe Bro qui nous parlait de son ouvrage sur le garage et voilà. sur le rock dit garage, et c'est vrai que depuis cette émission là ça fait quand même depuis le mois de septembre je n'écoute que du garage.
Oui, ça n'a pas changé beaucoup, mais c'est bien, ça vous a permis de mettre un terme à votre période salon de thé qui vous a duré un petit peu trop longtemps.
Une émission qu'on pourra, je pense, retrouver cet été dans les best-of, ou sinon vous tapez les grignoux, hein, c'est pas compliqué,
et c'est sûrement pas trop tard pour s'enquérir d'ailleurs de cet excellent ouvrage. Et au fil de la discussion, c'est vrai que ça nous a permis un petit peu d'affiner le concept, etc., sur ce qu'est le rock garage. Et maintenant, si j'ai bien compris, il faut qu'il y ait au moins un putain d'orgue ou de farfisa là-dedans.
Voilà, et du fuse.
Et du fuse. Il faut du fuse.
Voilà, et pas forcément des chansons de révolte, des chansons de désespoir, mais du moins que ce soit wild et qu'il y ait yeah.
Et si on peut mettre baby et cry dedans, c'est
surtout,
encore mieux.
Ouais, ouais, ça c'est pour les
c'est
slow.
Un peu les figures imposées du garage.
La semaine suivante, on avait reçu le 21 septembre Nicolas Huchet, connu sous son pseudonyme de Bionico, la fameuse main de l'espace, de l'homme qui volait 3 milliards. Et il était venu, si mes souvenirs sont bons, justement avec une main de démonstration. Alors on a essayé de le joindre pour ce soir, mais bon, si on n'arrive pas à le joindre, je pense que c'est bon signe pour lui. Il nous voit à droite, à gauche, à moins que vous ayez
des adresses. Comme vous étiez chargé normalement de le contacter.
Oui, vous connaissez.
Et
le filet était large pourtant.
Et du coup, j'avais récupéré un article assez intéressant. En 1871, deux frères égyptiens sont tombés tout à fait par hasard sur une espèce de cavité dans laquelle ils sont rentrés. Et à l'intérieur, d'accord, ils se disent au hasard, en disant qu'ils cherchaient leurs chèvres. En fait, ils pillaient des tombes. J'ai pas leur nom, moi, je suis sûr, c'était vraiment des pilleurs de tombes. Quoique non, parce qu'ils ont fait part de leur découverte aux autorités. Et on a découvert la tombe de l'ancien maire de Thèbes, sous le règne d'Amenhotep II. Ça nous rajeunit pas, parce que c'est aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ. Vous voyez le genre. Et donc, du coup, on a découvert par la suite, dans une autre tombe, une femme, qui, dans cette nécropole, qui portait une prothèse de bois. C'est-à-dire qu'il lui manquait en fait son gros orteil droit, et un artisan de l'époque, donc 1400 ans avant Jésus-Christ, soit il y a plus de pratiquement 3400 ans, eh bien elle avait on lui avait reconstitué son orteil. Il y avait une photo sur l'article, et il tenait avec un système ingénieux de petites bandelettes de cuir, et les traces d'usure sur l'orteil, le faux orteil, ont montré que ce n'était pas simplement un élément de décor, hein, pour masquer la béance faite par l'absence du pied du gros orteil. En plus, c'est chiant quand vous n'avez plus gros orteil pour marcher. Eh bien, en fait, elle s'en servait parce qu'il y avait des traces de rayures sur son gros orteil. Voilà, 1400 ans avant Jésus-Christ.
Ouais, et puis on revient aussi sur la philosophie de Bionico à qui travaille avec Fab Lab. C'est justement que cette c'est quoi le truc en fait? C'est une main qui est fabriquée avec une imprimante 3D et qui fait bzz bzz, contrairement aux Égyptiens. Mais ils vont améliorer sûrement le modèle. Bah, soit accessible en fait partout. Il y a pas de droit déposé. Il a pu se faire des couilles en or. Non. Ils ont remporté un prix. Par contre,
le Fab Lab avec lequel il a travaillé ont récupéré de ce qu'on appelle des logiciels libres. C'est ça, mon bon Tom.
C'est ça, exactement.
Et du coup, en fait, ce qu'il nous a expliqué, c'est quand vous utilisez ce genre de logiciel, donc vous faites avancer aussi, vous les faites progresser, puisque vous allez encore plus en avant, mais vous n'avez pas le droit de commercialiser ce que vous avez réalisé, puisque les logiciels dont vous êtes servi étaient eux-mêmes gratuits. C'est bien ça.
On peut les commercialiser, mais il faut que le code source, enfin ce qui sert à fabriquer le programme, voilà, soit aussi diffusé en même temps que le logiciel.
Voilà. Bah, si vous voulez en savoir plus, il suffit de réécouter l'émission qui, je pense, fera partie des best-of. Allez, pour en conclure, on s'écoute un petit disque au mois de septembre. On a reçu le 29 septembre Cours Métrange, qui paraît qu'ils ont fait encore un carton de chez carton. On leur dit, faut passer chez les Grignoux. C'était bien. J'étais même faire un petit tour dans une séance.
C'est vrai qu'on a réussi à vous traîner au cinéma. Vous rappelez,
oui,
Tom?
Ah oui. Et j'avais même pas peur.
Pas trop.
Et en parallèle, par contre, c'est vrai, on n'a pas suivi, mais je pense que le petit bistrot s'appelait le Cappuccino, place Saint-Germain, dont la vocation était de faire adopter des chats qui cartonnaient, qu'on avait été au mois de septembre, doit cartonner, je l'espère, encore aujourd'hui.
En tout cas, j'espère qu'il est encore ouvert, parce que l'autre jour, en passant devant, il faisait nuit, et il y avait des chats dans la vitrine. Donc, du coup, j'espère que c'est encore ouvert.
Bah, il y a des chats, oui. Allez, un petit disque.
To be, she hit.
Voilà, nous sommes toujours en compagnie des Grignoux, on est toujours le mercredi 28 juin et nous sommes maintenant en compagnie de Franck. Allô, allô.
Oui, bonjour.
Oui, bonjour, ben, on s'entend super bien alors que vous n'êtes même pas ici, vous êtes à Paris, c'est bien ça que vous m'aviez dit ?
On est à Paris, oui, pour 3 jours, exactement.
D'accord. Alors, est-ce que c'est des raisons professionnelles qui sont en lien avec le fait pour lequel vous étiez venu à notre émission, à savoir la semelle connectée ?
Voilà, au mois de mars, le 29 mars.
Le 29 mars, oui, tout à fait. On est à Paris pour des raisons professionnelles. Voilà.
Alors, comment ça s'est passé ? Alors, moi, je vous rappelle un petit peu, vite fait, pour les auditeurs qui auraient raté les épisodes précédents, vous êtes le co-concepteur, on va dire, avec votre ami, rappelez-nous son nom.
Romain Berda.
Voilà, comment dirais-je, d'une semelle connectée à destination, comment dirais-je, de... Voilà, on va dire, ou de gens un peu, quand vous voyez, Jean-Louis il trébuche parfois. Soir, ouais. Et donc je serai rassuré si quand votre semelle connectée sera au point, parce que j'en offrirai à Jean-Louis, je saurai que dès qu'il tombe, pouf, ça appelle la police. Enfin, pas tout à fait la police, mais les services de santé.
Les proches, voilà.
Alors, vous aviez présenté votre projet, et au cours de cette émission, vous aviez également présenté un espèce de vote, vous rappelez, vote internet.
Genre de concours.
Ouais. Est-ce que votre passage au Grignoux vous a permis d'avoir plus de signures?
Alors, on a eu des signatures, on a eu des votes, mais pas suffisamment, malheureusement, pour pouvoir se qualifier pour les étapes suivantes.
Il y avait combien de projets, déjà, qui étaient présentés?
Alors en tout, il y avait 4 catégories, il y avait à peu près 400 projets dans chaque catégorie.
Ah ouais, quand même.
Vous avez fini dans les 10e, dans le top 10 quand même.
Bah en fait, on ne sait pas combien on a terminé. Après, ils retenaient les 50 premiers projets par catégorie. Donc nous, on n'a pas réussi à atteindre
le quota.
Ouais. Et donc, du coup, on a été mis de côté.
Bien.
C'est pas grave, le projet continue quand même.
Yes. Et donc, du coup, ouais, parce que vous avez été repéré par ailleurs. Vous nous disiez que vous aviez déjà bénéficié de pas mal de trucs pendant l'émission et d'aide plus ou moins de logistique, si je dis pas de bêtises.
Alors là, par exemple, aujourd'hui, on est à Paris, on est en formation pendant 3 jours. Donc, c'est la Ruche qui organise. En fait, c'est des espaces de coworking à Paris et puis quelques espaces en province. Et du coup, il nous accompagne sur tout ce qui est financement, juridique, marketing, commercial. Donc voilà, on est à Paris pour ça, en fait, pendant 3 jours. Là.
Ah, cool. Et donc, du coup, c'en est où? Alors maintenant, concrètement, comment est-ce que vous avez commencé? Alors, vous nous aviez parlé d'une mutuelle, je crois, qui était peut-être intéressée, je ne sais pas.
Non, on avait discuté avec eux pour savoir ce qu'ils attendaient un peu des nouveaux dispositifs pour détecter les chutes. Mais du coup, on n'a pas fait affaire avec eux. Là, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on finit les prototypes cet été. Et puis, on va après lancer une série de tests dans les EHPAD pour vérifier que tout fonctionne très bien et que notre solution est valide auprès des seniors.
Ah bien, donc ça progresse quand même.
Oui, et puis on a des partenaires aussi, on a 2 écoles qui sont intéressées pour travailler avec nous. Donc il y aurait, on va dire, un projet autour d'un projet scientifique pour valider un peu tous les données qu'on va pouvoir récupérer et puis aller plus loin dans la solution.
Eh ben écoutez, c'est super, on va peut-être pas vous déranger plus longtemps, vous avez bossé toute la journée, vous devez être crevé.
On est crevé, mais on a quand même bu un coup à la fin et
ça va mieux.
Et ça va mieux.
Eh ben c'est comme Roger quand j'ai retrouvé pour le briefing, il était tout fatigué et là je sais pas ce qui se passe, il s'est pas nourri et ça il ressourit de nouveau, ça va mieux.
Il se réhydrate peut-être, allez savoir.
Et écoutez, c'est gentil d'avoir passé quelques minutes avec nous et puis bon bah normalement on porte chance, normalement pas dans tous les cas, mais là je le sens bien.
Moi aussi.
C'est vrai. Merci beaucoup.
Et on veut bien tester les chaussons d'ici 2-3 ans. On peut tester vos chaussons connectés sans aucun problème.
Enfin, vous, Roger.
Vous serez les premiers avertis.
Ouais, super.
Allez, merci.
Merci, Franck. À très bientôt.
Et donc, toujours au mois de mars, cette même soirée, on avait reçu des représentants, vous savez, de Bac plus que dalle. Et ce qui pose aussi, là, il y a un gros problème, j'entends les actualités, des étudiants, 40 000 étudiants qui savent toujours pas ce qu'ils vont faire au mois de septembre. Alors ça, c'est con, mais
de Caen, on avait prévu un taux de réussite de 85% au bac. Il était évident qu'il fallait anticiper ce putain de problème.
Bah ouais.
Et c'est tout. Et ça, c'était une émission qui était un peu crève-cœur quelque part, dans le sens où on voit des gens qui se cassent le cul, qui arrivent à des bacs plus 3, plus 4, plus 5, et pour des études qu'on va dire qui servent à rien.
Qui ne forment à rien, quoi, pour lesquelles on n'a pas de place.
Notre président Macron est un littéraire pur et dur.
Ouais, mais vous savez, des présidents, il peut y en avoir qu'un. Donc tout le monde ne peut pas être président.
Et c'est vrai que la plupart venaient de l'histoire des arts, ou de l'art.
Ou des lettres en général.
Des lettres modernes, etc. Et on a un putain de niveau, on a un putain de diplôme, et puis on est comme des cons, quoi. Et ce qui est un petit peu dommage. Et c'est vrai que, merde, 85%, alors je suis pas pour l'élitisme à 100% d'une classe d'âge, bah, fallait anticiper
Mais je crois aussi peut-être que cet objectif débile de 80% d'une classe d'âge qui a le bac ne veut rien dire. Il eût mieux valu avoir l'objectif tout simple de dire 80% d'une classe d'âge qui sortira formée, quel que soit le diplôme, et en finir avec, vous savez, quand on bosse pas au collège, si tu bosses pas au collège, tu vas aller en lycée pro, on stigmatise les métiers professionnels, du coup, les gamins, ils y vont par dépit, ça crée pas forcément, pas tous, mais un bon paquet de gamins viennent là aussi par dépit, on progresse pas, quoi. Et tant qu'en France, on n'aura pas vu, effectivement, que tout le monde n'a pas besoin forcément d'être assis devant un putain d'ordi, puis voilà, voilà, et qu'on peut aussi s'éclater en faisant des chaussons aux pommes, ou connectés, voyez. Et, bah voilà, le travail manuel, faire un travail manuel, ce n'est pas déchoir.
Voilà, je voulais dire un truc, mais vous avez coupé la chute et ça me revient pas. Ça ne revient pas, mais ça va me revenir.
Donnez-moi encore un petit peu d'eau de la plante.
ça reviendra après, bac plus que dalle, machin. Ah oui, alors voilà. Il paraît que l'explication officielle, pourquoi il n'y a pas de place cette année en fac, c'est le baby boom de l'an 2000.
C'est vrai.
Il paraît qu'il y a eu un baby boom de l'an 2000. Vous pouvez nous regarder ça, Tom, voir si c'est vrai, si les gens ont fêté le nouvel an.
C'est vous qui le dites.
C'est ce que
je pense pas que ce soit vrai.
C'est ce que dit le rectorat. Bah regardez, c'est ça, vous regardez sur une période.
Non, mais c'est possible
qu'effectivement
en 99-2000 il y a eu plus de
salaire. Mais on va vérifier quand même.
En fait, l'an 2000, il y a par là un moment et bingo.
Et il y avait aussi une prime si comment votre enfant naissait le 1er janvier, c'était la prime.
Peut-être.
Allez savoir, les gens sont tellement véno.
Émission du mois de mars, peut-être à mettre dans les best-of de l'été. Alain Petit, c'est parti. I said you better get
Allô, allô.
Oui, allô, bonjour.
Oh, c'est incroyable. Je sais pas ce qu'a fait Tom avec le téléphone, mais on vous entend haut et clair. Le premier. Ah, bah écoutez, c'est parfait. C'est super. D'autant qu'on vous remercie, du coup, d'être avec nous ce soir. On vous avait reçu. Alors, Jean-Loup a des fiches. Il va nous dire quand.
C'était au mois d'avril, le mois d'avril, le 5 avril.
Le 5 avril. Alors, on vous avait pas reçu au sens physique du terme, puisque on vous avait eu au téléphone en compagnie de Lucie, c'est bien ça?
Oui, de Lucie de Vigilouste, oui.
Ah, là, je vous entends plus, ça y est. Notre technicien,
allô,
c'est un
peu...
Oui, ça va mieux, mais c'est notre technicien, il s'endort un peu, je le soupçonne d'avoir voulu se gratter le nez avec, et puis du coup, il a
On peut pas avoir un voix de voix en même temps que le téléphone, sinon ça fait un bruit bizarre.
Non, mais moi, je sais tout, parce qu'en fait, il vient de voir une nouvelle où j'avais parfaitement raison.
C'est vrai.
Et là, il est complètement zébé des nez, Jean-Loup a encore raison.
Alors, on revient sur ce qui nous intéresse présentement, mon bon Jean-Loup, à savoir que Claire et Lucie, vous faisiez, alors, vous allez me préciser tout ça, moi, c'était auprès de l'association Vigilouste, dont Lucie fait partie. Vous êtes aussi, vous faites, ou c'est encore une autre association, je ne sais plus.
Non, moi c'est Attention Mine. Hein,
voilà.
Je représente l'association Attention Mine qui
voilà.
Est là contre le permis exclusif de recherche minière de Silfiac. Mmh. Et on est côte à côte en fait, on se jouxte. Il y a une petite rivière qui nous sépare géographiquement. Mais Merléac, c'est les Côtes d'Armor et nous on est à cheval sur les Côtes d'Armor et le Morbihan.
Alors du coup, depuis qu'on vous a reçu, eh ben, il semblerait quand même qu'il y a eu pas mal de retours médiatiques, parce que j'ai vu un petit article dans le Canard Enchaîné. Lucie m'a dit qu'il y avait eu également un article dans Libération,
oui.
Et un autre, je ne sais plus où.
Oh ben, il y a eu dans La Croix, il y a eu dans Marianne, il y a eu dans Ciné Hebdo, il y a eu... que je réfléchisse. Bon, il y a eu RTL qui nous a interviewés. Il y a eu, y en a eu d'autres, mais bon, on les compte plus là maintenant. Mais bon, non, je rigole. Mais bon, en fait, oui, il y a eu pas mal de bruit là autour des élections législatives.
Alors du coup, est-ce que c'est bon signe ou une fois tombées les élections législatives, on n'en parle plus?
Ben écoutez, nous on va tout faire pour qu'on en parle encore, parce qu'en fait ça nous préoccupe quoi. Mmh. On est dans le feu de l'action. En fait, on a réussi à faire remonter les choses au niveau de l'Élysée par le biais de l'interpellation des candidats aux élections législatives. Alors Vigilouste a fait un énorme boulot. En fait, ils ont interpellé les candidats comme eux. Ils sont vraiment sur les feux de la rampe, parce qu'en fait c'est là que les forages doivent être faits. En premier,
d'accord.
Les candidats aux élections législatives se sont vraiment saisis du dossier et se sont même regroupés, toutes tendances confondues, entre 5 candidats de l'extrême gauche à la droite pour écrire une lettre à Nicolas Hulot et lui demander l'abrogation des permis miniers. Donc, il y a eu aussi Marc Le Fur qui s'est fendu d'une lettre aussi à Nicolas Hulot. Sur Vigilou, ça a énormément bougé. À tel point qu'ils ont réussi à avoir une rencontre à l'Élysée avec un conseiller du ministère de l'Environnement le 21 juin dernier. Nous, de notre côté, on a fait la même chose, on a interpellé les candidats aux élections législatives. Bon, Edouard Didoul aussi sur le permis de Lokenvel. On a eu des représentants d'En Marche qui ont été élus. On va continuer à les interpeller, parce qu'en fait là maintenant ils sont tout nouveaux à l'Assemblée nationale et il faut qu'ils fassent remonter les inquiétudes des populations. Disons que du coup dans la foulée la région a émis un vœu qui est l'abrogation des permis miniers accordés en Bretagne, c'est-à-dire les 3 permis actuels, Merléac, Lokenvel et Silfiac. Et le département des Côtes d'Armor vient également de prendre un vœu en demandant l'abrogation des 3 permis bretons.
Alors du coup, c'est plutôt bon signe. Alors le problème, c'est que qui détient le pouvoir final dans cette histoire-là?
C'est l'État. C'est l'industrie ou l'environnement et le président. Et donc, à la suite de la réunion à l'Élysée à laquelle a participé Vigilouste, il a été décidé qu'une rencontre interministérielle aurait lieu entre le ministre de l'Industrie et de l'Économie et le ministre de l'Environnement. pour mettre à plat
le dossier,
l'occupation des permis miniers.
Ah.
Et on attend le rendez-vous et on entend ne pas faire retomber la pression. Parce qu'en fait, alors apparemment Nicolas Hulot compte se saisir du dossier et entamer une réforme du code minier assez rapidement. Mais bon, le problème, c'est que le code minier jusqu'à maintenant, il a quand même bien fait la part belle aux industriels et les associations n'ont pas été suffisamment entendues. Elles ont même claqué la porte aux précédentes discussions parce qu'en fait, elles servaient de faire valoir et c'est tout, quoi.
Alors, j'ai cru entendre également avec Lucie qu'il y avait eu, parce que moi j'avais entendu parler de vous grâce à la, comment dirais-je, à la manifestation qui avait été rapportée par le journal Ouest France, et d'autre part, il y avait eu également, il y aurait eu également une autre manifestation, c'est le cas ?
Oui, oui, il y a eu une manifestation, deux jours avant le rendez-vous, enfin non, pas deux jours, une semaine et quelques jours avant le rendez-vous à l'Élysée. Et il y a eu un grand appel à rassemblement de la part de Vigilou sur une colline de Merléac pour écrire avec les corps humains, c'est-à-dire en se tenant debout, pour écrire en lettres humaines, abrogées, vue du ciel, qui était filmée par un drone en fait. Et c'était une interpellation de la région pour qu'elle, entre les deux tours des législatives, pour qu'elle qu'elle se saisisse du vœu qu'elle comptait émettre en demandant l'abrogation des permis miniers et non pas un moratoire, pas une suspension.
Mmh.
Et bah tel a été le cas, donc c'est quand même on a été satisfait. Et en plus la mobilisation s'est faite en deux jours, quoi. Il a été décidé par Vigilouz de faire cette opération le dimanche soir et le mardi il y avait 600 personnes sur le site.
Ouais, donc, c'est impressionnant. Que
les gens sont réceptifs, sont prêts à se mobiliser, c'est bon signe, c'est très bon signe.
Alors, c'est d'autant plus bon signe que il y a 15 jours, nous, on avait des représentants d'une association qui se battent contre la ferme des 800 veaux. Et tout à l'heure, vous citiez parmi les opposants au projet minier, Marc Le Fur, c'est un peu ironique, parce que, tant mieux, comment effectivement qu'un député soit pour vous, mais Marc Le Fur, c'est un petit peu le député cochon, quand même.
Oui, il est assez productiviste agricole, mais bon, si les projets miniers pouvaient lui faire rencontrer d'autres gens et du coup changer son fusil d'épaule, ce serait pas plus mal. Mais bon, là, en fait, Marc Le Fur, bon, je le connais assez peu puisque c'est pas le député de notre circonscription. Mais bon, effectivement, il a pas été connu précédemment pour
des prises de position écologique en pointe.
Environnement, mais bon, moi, je pense que de toute façon, il y a une demande citoyenne à l'heure actuelle, donc il va falloir que les élus prennent les revendications des citoyens en compte, parce que sinon il va y avoir des mouvements de population, c'est évident, quoi. Hein.
Des
manifestations.
Est-ce que ça veut dire qu'il y aurait un petit peu davantage une prise une prise en compte par la population des problèmes environnementaux qui n'existaient pas auparavant? Parce que regardez, on nous a imposé l'agriculture industrielle avant qu'on ait eu le temps de réagir.
Les gens réagissent quand c'est chez eux, hein, sinon ils s'en foutent complètement.
Ouais, mais regardez à quelle vitesse l'agriculture industrielle s'est répandue, même partout. Bah, regardez, le projet, il est à Saint-Gilles, hein, à 10 bornes ou 20 bornes de Rennes. Donc il y en a partout aujourd'hui, alors que des mines, c'est pas partout. Est-ce que la mine, c'est pas le truc de trop?
Non, mais non, parce que par exemple la ferme des mille vaches dans le nord, il y a plein de gens qui se sont mobilisés contre les OGM, il y a plein de gens qui se mobilisent contre.
Non, mais je veux dire qui se mobilisent certes, mais comme c'est quand même un peu récent, quoi. Depuis le temps nous qu'on fait cette émission là, je peux vous assurer que les mouvements qui protestent certes sont anciens, mais il y a je trouve quand même l'importance de la manifestation pour Vigilouz, par exemple, où la dernière manifestation dont vous parliez est assez impressionnante quand même.
Oui, mais moi je pense qu'en fait, il y a eu une conscience écologiste qui avait émergé après les années, dans les années 90. Et puis en fait, il y a eu un espèce de tassement, et là on a l'impression, alors que, je veux dire, l'urgence est là, on n'arrête pas d'en parler avec les experts du GIEC, le réchauffement climatique, tout ça, les accords de Paris. Il y a cette urgence qui est dénoncée, qui est exposée, et en même temps on a l'impression qu'il y a une recrudescence de projets qui paraissent d'autant plus, je veux dire, inacceptables, parce que on est de plus en plus informés sur les risques qui font courir à la planète. Donc la mobilisation se voit peut-être plus, je sais pas. Et en fait...
Parce que là, je dis ça parce qu'on recevait quelqu'un d'Eau et Rivière il y a une semaine, 15 jours, je ne sais plus, et il nous a appris l'existence d'un nuage d'ammoniac au-dessus de la Bretagne, pouf, sauf quand il y a du vent. Et vous voyez, moi j'étais pas au courant, pourtant Dieu sait si ça fait longtemps qu'on parle de ça à l'émission.
Ça, je crois que vous avez une drôle de tête ce soir.
Et en fait, ça se transforme en particules fines, etc. C'est la vraie saloperie.
Oui.
Et vous voyez, maintenant on commence, mais il a quand même fallu du temps pour qu'on arrive à ce nuage d'ammoniac, il a quand même fallu quand même que ça puisse se développer quand même.
Ouais, mais ça fait longtemps qu'on dénonce la surpopulation porcine et
on était peut-être moins écoutés avant.
Oui, et puis en fait, il y a des gens qui continuent à bosser, c'est des travaux de longue haleine, de patience. Effectivement, j'ai déjà rencontré cette personne qui a écrit un livre qui s'appelle « Respirais-tu ?» C'est ce monsieur, peut-être, qui a fait une étude sur la pollution en Bretagne selon les grands axes routiers et également les concentrations d'animaux en élevage hors sol et intensif. Mmh. Et c'est vrai que c'est une catastrophe et on n'en parle pas beaucoup. Mais avant que des problèmes surgissent au grand public, en fait, il y a un travail énorme déjà de documentation, d'analyse à faire, qui font que ça met du temps à sortir. Et le problème, c'est que si c'est pas relayé par des médias nationaux et que ça reste au niveau local,
on n'en sort pas.
Voilà, il faut que ce soit relayé.
Eh ben écoutez, on vous souhaite effectivement que ça le soye, relayé.
Ouais, oui.
Et puis comment on va est-ce que quelle va être l'actualité? J'imagine que pendant les vacances, ça va être d'ailleurs être un petit peu plus calme, je sais rien.
Je sais pas, parce qu'on va travailler sur les sénatoriales également. On va interpeller aussi, puisqu'il y a des élections sénatoriales à la rentrée. On va faire que la pression ne tombe pas. Et je voulais juste vous rappeler deux petites choses dont je vous ai pas parlé. Mmh. C'est que dans le même temps, toutes les associations françaises contre la relance minière sont en train de se mobiliser pour créer un collectif national. On s'est d'ailleurs tous rencontrés à Paris le 15 juin dernier, devant l'école des mines, où il y avait une grosse journée des industriels miniers qui faisaient leur propagande, où on a pu aussi s'exprimer sous la forme d'une petite pièce dans la rue satirique. Il y a des articles dans Le Monde, dans Reporter, dans il y aura sur France Inter un dossier d'investigation le samedi midi sur la relance minière. Et également, il y a des personnalités qui sont engagées. Par exemple, Irène Frein s'est engagée contre les projets miniers en Bretagne, puisque, en fait, elle a des origines bretonnes et elle s'est saisie du dossier en tant que journaliste et écrivaine, et elle a envoyé une lettre à Nicolas Hulot. Il y a la Confédération Paysanne 56 qui se mobilise contre. Il y a beaucoup par des canaux différents d'appels qui arrivent sur la table du ministre de l'Environnement. Donc voilà, pendant les vacances, on va peut-être se reposer un petit peu, mais on va continuer à préparer nos actions de la rentrée.
Et une dernière question, du coup, vous avez un nouvel interlocuteur, là, Nicolas Hulot, et vous en pensez quoi, du coup, je sais pas.
Moi, a priori, je le trouve, pour le moment, pas trop mal. Après, on n'a pas vu trop...
J'ai vu sa réaction, en tout cas, à propos des c'est dur à dire, on va dire des pesticides.
Néonicotinoïdes,
ouais.
Il n'a pas lâché, heureusement, parce que on attendait au moins ça de lui. Mm. En fait, Nicolas Hulot, il a quand même pas mal évolué depuis Ushuaïa. Il s'est rapproché de Pierre Rabhi, je ne sais pas si vous connaissez.
Oh, si, ouais.
Il y a eu des échanges fructueux, spirituels sur la vie et la nature, la planète, et je trouve que c'est intéressant. Après, espérons qu'il pourra mettre en œuvre toutes ses préoccupations, quoi, sur la préservation de notre environnement.
Yes. Eh ben écoutez, on vous remercie, Claire. Et puis je pense qu'on reviendra vers vous suivant tout au long de l'actualité qui vous préoccupe.
D'accord. Mais sachez que pas très loin de Rennes, il y a un permis là aussi qui est à l'étude, Olivet. Le permis d'Olivet, c'est juste à la limite entre l'Ille-et-Vilaine et la Mayenne. Mmh. Et il faudrait que les gens qui sont là-bas se mobilisent parce que c'est encore un permis qui est demandé par une société minière. Je peux plus vous dire si c'est Variscan ou pas, mais ça risque de sortir dans les prochains mois peut-être. Donc faudrait que les associations s'intéressent au
problème,
à ce problème, et puis réagissent s'ils pensent que c'est nécessaire.
Voilà. Olivet, vous écrivez ça comment? J'ai noté ça.
O-L-I-V-E-T.
V-E-T,
c'est
ok.
C'est en Mayenne, c'est juste à la frontière de l'Ille-et-Vilaine et de la Mayenne.
Ok. Eh bien, écoutez... On vous remercie, Claire, et puis on vous dit, je pense, à très bientôt. Puis au moins, peut-être que moi, par téléphone, on pourra fêter votre victoire, en tout cas.
Ah, ce serait bien, hein.
Yes.
Voilà.
Eh bien, on boira un coup téléphoniquement, j'espère.
Ok, pas de problème.
Bonnes vacances. Bon,
ouais, merci, vous aussi.
Au revoir.
À bientôt, au revoir.
Au revoir.
Au revoir. Voilà, vous écoutez toujours les Grignoux, espèce de récapitulatif avec une...
Espèce de... Je croyais que c'était une insulte, moi.
Je croyais qu'il allait insulter quelqu'un.
Non. Ouais. Avec une rubrique...
Ouais, espèce de récapitulatif, toi-même.
Que sont-ils devenus on était arrivé avec tout ça, parce que c'est vrai qu'on ne suit pas forcément là. Vous vous souvenez de Wild Farm, c'était au mois d'octobre, ça, là,
Ouais, sujet un peu choquant, bah, qui est en liaison un peu avec ce qu'on a eu tout à l'heure, puisque cette campagne d'affichage qui dénonçait tout simplement la castration des cochons de manière brutale, etc.
Vivant.
Et cette campagne d'affiche a subi les oukases de la préfecture des Côtes d'Armor, je crois, de la préfecture de la Mayenne aussi, je crois, ou du Finistère, faudra vérifier, et il nous le dit pendant l'émission, et du coup, elle n'avait pas le droit de coller une pauvre affiche, très rigolote, très cartoon d'ailleurs, où on voyait un petit cochon qui était sous les feux d'une lampe et qui protégeait sa paire de coucougnettes.
La semaine suivante, le 12 octobre, on recevait l'émission, je crois que c'est l'émission préférée de Tom, qui s'appelle MFRB. Vous vous souvenez, Tom, vous avez flashé là-dessus, c'est le mouvement français pour le revenu de base.
Ne parlez pas de ça.
Pourquoi c'est pas d'accord avec
vous? Vous êtes contre, vous, le revenu de base, en fait.
Oui, ça peut.
Non, là, l'idée est super bien.
Et c'est pas une idée qu'a porté chance à Hamon, hein. Il était allé rapporter le projet.
S'il l'avait soutenu, l'idée.
Il l'a pas soutenu jusqu'au bout. Il a pas été jusqu'au bout. Il a flanché façon sociale de base. On voit ce qu'il en est advenu.
Ouais, voilà. Et le revenu de base, c'est pareil, ça n'a pas porté chance à Tom. Le 19-10, on recevait, vous le connaissez, c'est François Angelier, qui avait fait un truc sur les 100 ans du canard enchaîné.
Ah oui, oui, mais ça, c'était une interview réalisée dans le cadre de Quai des Bulles avec mon ami Erwan dit l'Irlandais.
Ouais, de toute façon, il y a un tiers des émissions, c'est Quai des Bulles. Donc, on est en train de se faire, mine de rien, noyauter par peu et pinceau.
Une excellente interview de monsieur Didier Convard, si je dis pas de bêtises, c'est bien ça?
C'est François Angelier, moi, qui est marqué.
Ah, François Angelier, ça, c'est comment? C'est autre chose, Oui, vous avez raison.
Donc, en voulant en savoir plus, hop, on rebascule sur Plume et Pinceau. Et là, ce sera beaucoup plus net. On avait reçu aussi.
Le canard enchaîné, dont je rappelle quand même qu'il a quand même fait trébucher Fillon, hein, parce que sans le canard, on avait Fillon, les enfants, hein. C'était couru.
Ah oui, ça, c'est sûr.
Et on avait reçu aussi en parallèle dans l'émission SOS Ordi 35 SOS Ordi 35.
Alors, peut-être par que contre... notre ami Grovitch qui vient d'arriver va pouvoir nous en dire plus, parce que c'est lui qui nous a annoncé la mauvaise nouvelle.
Eh ben oui, alors ça fait un petit moment maintenant qu'ils ont malheureusement été obligés de fermer, parce que le recyclage c'était bien beau, mais en fait personne voulait suivre le truc et ça rapportait pas assez, malheureusement.
Ouais, ça
c'était le problème entre le prix de la réparation qui coûtait le prix du neuf, et les gens étaient pas prêts à réparer de l'ancien, quoi.
Voilà, donc les gens ont sûrement une putain de deuxième voire troisième planète, et ils préfèrent, alors que c'est pas pour dire du bien d'une entreprise, de toute façon on peut pas m'accuser de faire de la pub pour lui puisqu'il n'existe plus, comment il m'avait vendu justement, conseillé une excellente imprimante.
Voilà, il nous avait donné un très bon conseil aussi, si on veut acheter un produit qui dure, une des références est garantie 3 ans. Et ça, c'est marrant, j'ai retenu ça dès que je regarde un machin, est-ce que je veux un truc que je balance au bout de 6 mois ou est-ce que je veux un truc qui dure, garantie 3
ans.
Mais
comment est-ce qu'il a rebondi alors, mon bon
Grovitch? J'ai pas eu de nouvelles, je l'ai pas parce que je l'avais déjà recroisé dans un restaurant qu'on fréquentait ensemble en plus, mais je sais pas, là je l'ai pas revu depuis longtemps. Je ne sais pas.
Écoutez, s'il nous écoute, en tout cas qu'il n'hésite pas à nous contacter ou nous envoyer un petit mail chez les Grignoux, comment facile à trouver, et facile à trouver, c'est pas l'adresse, c'est les Grignoux. C'est ça. Et du coup, pour nous donner de ses nouvelles. Et moi, je crois que son combat était le bon et ça finira par gagner.
Le mois de novembre, bon, on va aller assez rapide parce que quand je vois le 9 novembre, hop, spécial Quai des Bulles.
Encore ?
Oui, avec votre ami. Vous savez que ça fait jaser.
Mon ami Erwan, irlandais. Ouais. Ah oui, tiens, une petite... alors que nous rentrions...
Vous m'étonnez. Allez-y, racontez l'anecdote.
Alors que nous rentrions de concert, non pas d'un concert, mais ensemble.
Fort tôt le matin,
un petit peu, on va dire, fatigué, mais plus fatigué qu'alcoolisé, parce qu'on s'est cogné bientôt 10 bornes à pied. Et presque arrivé, nous rencontrîmes un espèce de vieux con en vélo, façon béret ou casquette à la con, qui nous a invectivés en nous traitant de putain, de PD, rennais, de merde, etc., etc. Le fait d'être, c'est même pas tant le fait d'avoir été pris pour un homosexuel qui me fout la haine, c'est tout simplement parce que c'est effectivement assez curieusement, ça m'arrive assez fréquemment avec Arwan.
Ah ben, c'est bizarre. Mais non, après, nous, ce qu'on n'a rien contre. Hein.
Mais les autres fois, c'était juste sur soit le ton de la conversation ou etc. de l'intérêt que notre couple baroque pouvait susciter, mais ce n'était pas dans l'invective. Et j'ai jamais compris. C'est con à dire, de même manière que j'ai quand même du mal à conceptualiser toute forme de racisme ou de haine de qui que ce soit. Mais alors cette violence que génère comme l'homosexualité m'a toujours laissé pantois parce que elle n'a pas de rêve. Un peu comme pour les roues, vous savez, ça n'a pas de raison intrinsèque. J'en parlais avec vous, Jean-Louis, je disais à la limite les hétéros qui gueulent comme des vaches sur les homos pourraient se dire comme ça va y avoir plus de filles pour nous. Je ne sais pas, ça me paraît être un argument au moins.
Non, mais il y a ceux qui m'étonnent. Roger, on s'est souvent trimballé tôt le matin dans la rue tous les deux. Personne nous a traité d'homo.
Non, nous on nous prend pour des coronets tous les deux, on nous prend pour des chauffeurs de la star. Mais
et c'est vrai, vous allez bien ensemble. Bref.
Peut-être est-ce notre allant ou peut-être est-ce que c'est un vieux avec quelqu'un de plus jeune et on se dit putain c'est un vieux dégueulasse qui vient de sortir un petit d'une école primaire, allez savoir.
Allez, on écoute. Je termine rapidement le mois de novembre parce qu'on va recevoir. Allez, dans 5-10 minutes, il nous écoute, qu'il ait un peu de patience. Pascal Sacleux, justement, qui va nous parler un petit peu de ce qui est devenu ou ce que devient son exposition sur les roues. Le mois de novembre, on avait reçu les Mélamitaines. L'idée était pas bête. C'était pas bête en fait, c'était une espèce de petite mitaine hop qui permettait aux gamins quand ils traversaient la route, surtout en campagne, d'être visibles à longue distance et d'éviter les incidents. Le 30 novembre, on avait reçu aussi l'Ange Bleu. Ah, ça vous avez bien aimé ça, vous, l'Ange Bleu.
L'Ange Bleu, je l'ai contacté et malheureusement elle était débordée, elle ne pouvait pas intervenir.
C'est quoi
aujourd'hui.
De mots, l'Ange Bleu, Roger?
L'Ange Bleu, le concept de l'Ange Bleu, c'est une association qui tourne autour des victimes de la pédophilie, mais qui a également aussi une démarche originale, qui est une démarche de prévention, mais pas la prévention sion-sion, vous savez, le jour un petit peu à la con, on peut distribuer des autocollants, etc., ça n'amène pas à grand-chose, mais plutôt à travers des débats où, Latifa, hein, si je dis pas de
oui,
bêtises,
c'est ça, ouais.
Latifa reçoit des victimes de faits de pédophilie et des personnes soit qui ont accompli l'acte et qui ont déjà été etc. jugées etc. qui sont sorties, soit qui ont peur de l'accomplir. Et justement, à travers ces groupes de parole où on confronte à la fois et les victimes et des potentiels tourmenteurs, eh bien, le but du jeu, c'est d'éviter que les potentiels ne le deviennent réellement.
Voilà, une émission, je pense, on retrouvera dans les best-of de CDT en rediffusion. Un petit disque et après, on avance.
Far from it, you've been away, man, and you're home right now.
continue sur le bilan de la saison 2016-2017. Au mois de décembre, et ben le 7 décembre, on a invité la SPR. Alors, bonne SPR. Question. Qu'est-ce que c'est que la SPR ?
La Société Protectrice des Rats.
Bah attendez, c'est un truc à vous en plus là.
La SPR. Alors, mais oui, la SPR, c'est l'association de sauvegarde
des écoles, des paysages ruraux,
un truc comme ça.
Voilà, exactement.
Et ça nous place, comment dirais-je, pas loin d'ailleurs de la région dont nous parlait tout à l'heure Claire à propos des projets miniers. Mais là, c'est plus pour un projet minier.
C'est plus pour un projet minier, bien sûr.
C'est pourquoi ?
Ah bah, attendez, je me suspecte. Si on dit aux gens ce qui est développé dans les émissions, ils vont pas réécouter.
Alors, c'est, bah, dites-le nous.
Non, c'était pour les histoires des usines Seveso. Oui.
Voilà.
Vous avez cru m'avoir. Heureusement, je suis un putain de visuel. Voilà.
Voilà, un putain de visuel, mais maintenant, ça nous
Seveso.
Donne pas.
Seveso, clac, j'ai fait le.
Et alors?
Eh bah, ben, c'est pour éviter les usines dites de type Seveso.
Alors, je rappelle, pour ceux qui auraient raté le début de l'émission, c'est pas l'émission du jour, c'est l'émission, on est en novembre, c'est ça? Non, on est en décembre.
Décembre. Ouais.
C'est une émission au cours de laquelle, effectivement, il y a le projet d'extension d'une usine.
En voilà, fait, exactement.
Existe déjà. Et contre lesquels s'insurgent. Et ils ont raison, il faut s'insurger. Et quand on leur aura dit, parce que c'est apparemment, d'après ce que j'ai compris, c'est pas très loin de chez eux, qu'il y a un projet de mine sur la commune de Olivette, en limite Mayenne 35, ils vont sûrement, après Seveso, les mines. Nous, on a déjà le nuage d'ammoniaque, on ne peut pas tout avoir.
Une petite parenthèse, parce que j'ai vu que vous aviez vérifié à Roger quand vous dites quelque chose. Alors, Tom, il est là comme... Ah ouais, parole d'évangile.
Et oui,
moi,
et il a
le
raison.
Le moindre truc. Vous savez le baby-boom de l'année 2000? Ouais, allez, c'est ça. Et ben, il a été vérifié. Et alors, j'ai raison ou pas?
Ah, j'ai dû chercher pas mal quand même. Hein.
Ouais, et alors, c'est pas Libération qu'on parle?
C'est vrai.
Pas n'importe qui, Libération.
Ouais, enfin, baby-boom, ça c'est bien un terme de journaleux. Attends, qui n'a rien à voir avec le terme... Non, c'est comme pour... on parle d'holocauste. À chaque fois, etc.
Vous n'allez pas me faire croire que le nouvel an...
Il y a eu effectivement plus de naissances. Pour moi, un baby-boom, ça représente une marque importante et durable sur une putain de pyramide.
Non, il peut y avoir des années de baby-boom. Vous savez, dans le Trégor, on a eu 3 baby-boom. On a eu le Torrey Canyon, on a eu la Moco Cadiz, et je ne me souviens plus du troisième...
3945.
Non, quand les poches... Ça suffit, allez. On termine, et vous vous souvenez le 14-12?
Elles ont toutes couché avec des boches.
On avait fait une émission qui a pas eu beaucoup de succès. On a essayé, on innove, etc. C'est une émission dite de Noël. On a invité les gens à dire, alors racontez-nous votre meilleur repas, votre pire repas de Noël.
Et il se trouve que le sujet est éculé, plus à chier, et personne n'a téléphoné.
Donc,
si, on a eu des gens.
On ne fera plus jamais, car je barre rageusement des émissions de Noël.
Voilà, il faut pas faire d'émissions de Noël.
C'est trop facile, quoi. Allez, on s'écoute un petit disque, et puis, le temps qu'on appelle Pascal Sac, qui nous parle justement, qui était passé, j'ai tout ça sous les yeux, il était passé à l'émission, ça c'est sûr, le 17 mai, voilà, et qui nous parlait de son exposition à l'aéroport de Saint-Jacques,
à l'aérodrome.
Respirez,
Jean-Loup, reprends ton souffle, Jean-Loup, c'est tellement rare que je puisse parler, que du coup,
il y va,
il ne peut plus s'arrêter.
Smiling beast and a crying angel.
Après ce morceau des Decline, normalement nous sommes en compagnie de Pascal Sacleux. Allô, allô.
Allô, normalement ça marche.
Ça marche très bien, on vous entend très bien. Vous n'êtes pas en avion là?
Je suis en quoi?
Vous n'êtes pas en avion?
Je suis en voiture.
Voilà.
Ah, c'est tout à fait interdit, vous le savez.
Ça y est, je me suis arrêté.
Bon, on va croire que vous êtes arrêté.
Et donc, si on vous appelle, c'est qu'au mois de mai, vous êtes venu dans le cadre de l'émission pour nous présenter une exposition que vous avez faite sur les roues à l'aéroport de Saint-Jacques. Alors, est-ce que vous avez des retours? Comment ça a fonctionné? Est-ce que les...
Est-ce qu'elle est toujours là?
Alors, les gens aux cheveux roux, vous voulez dire, hein?
Ouais.
Bon, ouais. C'est vrai que j'ai dit rouca et j'ai regretté pendant un moment après.
À chaque fois, on me dit, mais les roues, quoi? Non, alors, les gens aux cheveux roux. L'expo a duré du 28 avril exactement au 20 mai. Je l'ai décroché au 20 juin, pardon. Je l'ai décroché. Donc,
ah ouais, c'est tout récent, la semaine dernière.
Ouais, et ça a super marché au niveau couverture médiatique et aussi grâce à vous.
Ah ouais,
on a fait vraiment plein de trucs, quoi, et des super retombées aussi au niveau des du public, des gens qui m'envoient des messages de partout dans le pays et même au-delà pour me remercier, m'encourager, me féliciter, me dire qu'ils sont soulagés, etc. Et donc là, je travaille sur l'élaboration d'un livre, un livre un petit peu engagé.
Est-ce que ça va reprendre une partie des photos que vous avez réalisées ou l'ensemble? Est-ce qu'il y aura quelque chose, justement, on en avait un petit peu parlé, est-ce qu'il y aura une trace qu'on pourra acheter de cette expo?
Mais oui, en fait, l'expo, elle a servi de lancement. Elle va normalement, j'espère, en tout cas, donner naissance au projet du livre, qui n'aura pas forcément le même titre que l'expo, avec cet élan qui au départ se voulait esthétique uniquement et qui est devenu un élan vraiment engagé en faveur de l'image des roues en France, en tout cas. Et en fait, j'essaye d'articuler ça de manière à être un petit peu plus ferme sur l'image qu'ont les gens des roues en France. Et je continue les prises de vue, d'ailleurs, j'en profite pour en parler à tout le monde. Je continue de photographier des hommes, des femmes, des enfants roues. Et bien sûr, dans le livre, il y aura tous les gens de l'expo, plus les gens que j'aurais photographiés entre-temps, et un maximum de personnes.
Ah, je connais des roues, mais c'est des vieux amis, ce sont des vieux roues. Est-ce que vous prenez également le vieux roux?
Le capot blanc. Le vieux roux, la vieille rousse, même avec des cheveux blancs.
Ah, bah écoutez, je vais lui en parler.
Et à l'exposition, est-ce qu'elle va tourner Elle va donner quelque chose, les fameux...
Voilà, pour l'instant, l'exposition, elle est exactement ce que je ne voulais pas qu'elle devienne. Elle est dans ma cave, beaucoup de place. Mais en fait, j'attends des réponses au niveau de Rennes Métropole et puis quelque part en ville. J'attends vraiment des réponses. Je peux pas trop vendre la peau de l'ours, mais sinon, je suis open. Hein. Il faut vraiment un grand espace pour pouvoir accrocher 30 tirages 120 par 180. Et une fresque de 2 mètres par 3.
Et j'ai une idée qui vient comme ça spontanément. Est-ce que vous avez contacté, vous savez, à Roscoff, les ferry boats?
Absolument pas, mais c'est une excellente idée.
Et là, enfin, je sais pas, là, ils ont l'espace. Enfin, bon, bref, en tout cas, creuser. Ils ont la clientèle quelque part. Voilà, faut pas de petites suggestions. Et je vois Grovich qui apparemment a quelque chose à vous demander.
Non, non, c'est parce que juste c'est pour mettre le casque.
Pour écouter l'émission, parce qu'il voulait écouter l'émission, tout simplement. Il a le droit, il est technicien, il a le droit d'écouter l'émission. Et donc, du coup, alors, moi, je reviens, moi, sur la forme papier hein, de votre travail. Donc, va y avoir quelque chose. Est-ce qu'on peut être un peu plus précis? Est-ce qu'on sait quand ça va paraître? Non, pas encore. C'est trop...
Absolument pas. Et on doit absolument essayer de séduire des éditeurs, parce que la maquette, le texte, etc., ça, on peut gérer, mais au niveau de la distribution, la présentation, etc., et donc l'édition, on n'a pas encore vraiment de contact. Le projet est vraiment en gestation, mais de toute façon, sans éditeur, on pourra rien faire de vraiment solide, quoi.
Est-ce qu'il y aurait moyen de voir auprès, par exemple, je sais pas, moi, d'éditeurs, bah tiens, excusez-moi, il y a une éditrice, là, comment, qui est ministre maintenant, comment qu'elle s'appelle?
Je ne sais pas.
Vous savez, la commande, elle était patronne d'une maison d'édition à Arles. Et c'est super connu. Oh bordel, vous pouvez me chercher ça, mon bon Tom. Moi, j'ai pas d'internet sur mon dos. J'en reviendrai là-dessus tout à l'heure. Et cette bonne femme-là, bah, elle a fait dans l'édition. Bref, il y a peut-être aussi des ouvrages de photos. Il y a des éditeurs qui sont spécialisés dans la photo.
Oui, tout à fait. Oui. Ce qu'on appelle des beaux livres. Il y aura de la photo, c'est sûr. Il y aura aussi du texte. On va essayer de bien s'entourer en matière d'études comportementales et sociétales, et puis de présenter un produit fini qui ait l'air de quelque chose et qui soit pas seulement joli, en fait.
En fait, un ouvrage plus militant, c'est ça que vous essayez de nous dire?
Ah oui, vraiment militant. Ce sont vraiment les réactions des gens que j'ai photographiés et du public. Qui m'ont vraiment poussé à rendre tout ça plus militant, plus engagé, parce qu'il y a de la demande par rapport à des gens qui sont totalement dans l'oubli, en fait, et dont tout le monde se fout.
Vous êtes en train de lancer le Red Power?
Pardon?
Red is Power and Love, ouais, on édite des t-shirts en ce moment, ça va circuler un peu.
Bah écoutez, Pascal, on vous remercie d'être intervenu. Et je vous dis, essayez la Britannia Ferry, Roscoff. Ça se trouve, mon idée n'est pas conne du tout.
Ah, mais j'ai jamais dit.
Bah, on sait jamais. Et puis, maintenant que je n'ai plus aucun préjugé sur les personnes à chevelure rousse, il faut que je fasse hyper gaffe quand je parle, je leur serre même la main et je fais même la bise. C'est pour vous dire.
Ah bah super.
Et ça, c'est grâce à vous.
Ans, on vous embrasse tous.
Bien, c'est super. Eh ben, bon courage et puis à très bientôt, j'espère, Pascal.
Mille merci, je vous tiens informé.
Yep, merci. Super.
Salut.
Au revoir.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Oh, well, I'm sitting here la-la waiting for my ya-ya. Oh. I'm sitting here la la waiting for my ya-ya. Oh. It may sound funny, but I don't believe she's coming. Oh. Baby, hurry, don't make me worry. Oh. Yeah, baby, hurry, don't make me worry. Oh. You know that I love you. Oh, how I love you all.
sitting here la la waiting for my yaya. It may sound funny, but I don't believe she's coming out.
Voilà, vous êtes toujours lors de la dernière émission des Grignoux de la saison, alors que Jean-Loup met son cax, alors que ça ne lui sert à rien, et que il se dépêche de finir son gros truc parce qu'il a noté des trucs.
Ouais, vous vous souvenez en janvier? Moi, je m'en souviens, cette putain
je m'en
de...
souviens pas.
La traversée,
du désert
de la grippe, c'était les rendez-vous.
Je me rappelle surtout de la photo que Tom avait choisie.
Ah oui, elle était très bien.
On avait invité les éditions Poncer, qui nous parlent, enfin, qui venaient de sortir ou d'éditer un ouvrage, s'appelle La Traversée, qui parlait de la commune, justement. Et ça, cette traversée, pour moi, elle était longue parce que j'étais là, je sais pas, j'avais 52 degrés de fièvre, à l'agonie et j'étais là quand même au téléphone.
Oui, vous aviez fait l'effort.
Oui, oui.
Oh, il couinait, il voulait pas. Il a couiné.
Roger, vous avez jamais eu la grippe, la vraie.
Couine, vous avez... il fallait la voir. On va pas reconnaître ma voix au téléphone. Faire des essais voix, mettre des filtres, contre-filtres, sur-filtres. Bref, une catastrophe, mais c'était quand même un plaisir.
Ce qui montre que le Trégorois est quand même plus résistant que le brioche, j'allais dire le pléraniste.
Alors, on se perd dans les détails, mais surtout, il faudrait quand même qu'on parle du livre, parce que c'était ça qui est important, pas votre grippe ou votre gros rhume.
Les
souvenirs d'un ancien bagnard de la un communard déporté en Nouvelle-Calédonie, et c'était tout son trajet de retour auquel on assiste, à travers lequel on découvre un petit peu la vie qu'il a vécue là-bas.
Voilà, et j'avais fait même quelques remarques pertinentes, ils m'ont fait remarquer à un moment. Ah oui, votre remarque est pertinente.
Je me rappelle pas de ça.
Si, quand ils parlaient en brésou entre eux. À vous, vous aimez bien les initiales, si je vous parle de Lasru.
Lasru,
c'est forcément un truc écolo.
Une colle, et Lasru, c'est l'association.
Voilà.
Secrète.
Anonyme.
Non.
Des ruraux, non. Urbanisés. Extérieur.
Que veut dire cet acronyme? C'est facile, hein, quand on a la fiche sous le nez.
Bah oui, c'est facile. Bah, j'en sais rien. J'aurais dû la noter. Autant que tu le trouves.
C'est pas Lasru, en plus, c'est Lazaru. C'est pas Lasru, c'est Lazaru.
Ah oui, non, ouais, Lazaru. J'ai dit Lasru.
Ouais,
c'est l'accent du Trégor, ça. Lasru.
Ah, ouais.
Ouais, Lazaru, ouais. Bah.
Donc vous avez noté des trucs, vous savez pas ce que c'était. Pourquoi vous en parlez? Si vous aviez pas dit ça, on serait pas rendu compte de notre incompétence crasse.
Si c'est sur les arts graphiques dans la rue.
Il nous reste plus que 7 minutes.
C'est sur les.
Allez, je vous aide quand même.
C'est les arts graphiques dans la rue, c'est ça.
Donc le A, c'est pour association.
Ouais.
De soutien au réseau urbain d'expression.
Voilà. Donc c'était les tags, etc. On avait reçu la semaine suivante aussi Clément de la brasserie, un biériste, qui était venu les bras chargés de bière. Ça, je m'en souviens. Ça, c'est le souvenir que je me rappelle.
Vous aviez été assez acrimonieux avec ce notre ami biériste, en lui faisant remarquer que le nombre d'échantillons était un petit peu léger.
Je veux dire, 3 échantillons pour 4, c'est pas lourd. On a essayé de contacté. Je sais pas, il a pas rappelé, il doit être très occupé. S'il a pas rappelé qu'il est très occupé, c'est sûrement bon signe pour lui. En février, vous savez, on avait parlé de, on avait invité Sud PTT 35 où on parlait du d'un métier qui a disparu.
Scandale. 17 bureaux de poste supprimés à Rennes. Bonjour, ça rassure d'avoir une mairie socialiste. On me dirait, ça n'a forcément rien à voir. C'est vrai que ça a peut-être pas tout à fait lié, mais on aurait pu imaginer de la part de la municipalité une plus grande défense
d'un service public.
La ville peut renauder dans les brancards et signifier quand même à la direction de la poste que la suppression autoritaire sans concertation de 17 bureaux de poste a foutu les gens, et parmi lesquels les plus démunis, c'est-à-dire les petits vieux, les petites vieilles qui ont fait l'erreur d'ouvrir un compte à la poste et qui maintenant doivent se rendre à République dans un truc pourri. Monsieur Grovitch.
Oui, et en plus de ça, en ville, enfin moi je m'attendais pas du tout à ce qu'ils ferment en ville à Rennes, parce que les gens ont généralement pas de moyens de locomotion et du coup ça éloigne très vite le...
Ouais. Et il y a d'autres bureaux de poste, il y en a un rue, Antoine Joly, c'est pareil, qui a été fermé alors que c'était
monsieur
déjà...
Monsieur Roger, il y a bien trop de fonctionnaires en France, et du coup, tu as le tutu grand-mère qui a voté à droite, et ton courrier, tu irais le chercher à 500 mètres, que dis-je, et
pareil... Je vous ferai dire quand même qu'on n'avait pas voté à droite. C'est quand même sous une présidence de gauche et un gouvernement de gauche qu'on a fermé 17 bureaux de poste à Rennes.
Et je me souviens plus du nom de la personne qui était qui parlait au nom de Sud
PTT.
Représentant
de chez Sud, ouais.
Ouais, enfin, on l'a fait tous les deux, qu'on était étudiants facteurs. Aller voir la petite mémère Michu pendant 20 minutes, ça nous faisait chier, ça retardait notre tournée. Mais c'est pas grave, ça faisait partie du métier. Ça disparaît. Et aujourd'hui, on peut, mais il faut. Payer. Je sais pas si vous avez vu la pub à la télé. Votre mère va bien. Vous payez tant par mois.
Ouais.
Alors que
quand vous arrêtiez avant boire un café avec une petite vieille, et maintenant, ça sera mamie. Tu me payes le café et tu payes.
Et l'histoire aussi de Sud PTT, on les a invités parce que je ne sais plus quel magasin dans votre quartier avait accepté de sceller, d'avoir les colis livrés, etc.
Ouais. Et quand ils ont vu
le boulot que ça représentait par rapport à ce qu'ils étaient payés, ils ont laissé tomber. Là.
Ouais. Ils ont tenu 48 heures. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est tout.
Même pas deux jours.
Voilà. Et maintenant, c'est un petit cordonnier, d'ailleurs, qui ne fait plus cordonnier, qui fait que dépôt de courrier, ça n'arrête pas. Je soupçonne de plus pouvoir réparer une seule chaussure, parce que comment, il y a toujours du monde à venir récupérer qui une lettre, qui du courrier, etc.
Au mois de mars, on avait eu des représentants qui nous avaient parlé du féminisme à Rennes.
Ah, c'est l'histoire du féminisme à Rennes, d'ailleurs. Je vous ai fait parvenir un mail à toute l'équipe des Grignoux, comme quoi on était invité à boire un coup.
L'équipe des Grignoux. Comme si on était 30.
On est suffisamment nombreux pour que vous me disiez oui, quand on nous invite à boire des coups, il n'y a que vous qui avez l'invitation, Roger. J'ai transmis. Est-ce que vous allez y aller?
J'ai déjà oublié la date, moi.
Il a oublié la date. L'autre, il sait pas quelle est l'association. Avec laquelle on avait discuté de trucs qu'on croyait oubliés, à savoir de la grève auprès dans le des conditions de vie dans le magasin Mammouth. Vous vous rappelez?
Oui, bien sûr. Au mois de mars, on a vu 3 Hit Combo aussi qui nous parlait de jeux vidéo, etc. On a vu Johan, le plombier humanitaire, qui allait, qui profitait de ses vacances pour équiper en Inde des quartiers défavorisés. C'est vrai que nous, on pense toujours quand on parle humanitaire à la bouffe et on oublie complètement que la flotte, c'est peut-être la base aussi du côté humanitaire. Après, on passe directement au mois d'avril. On a eu déménage-moi. Ça vous avait plu, Roger. Ça,
oui. Une espèce de, alors je sais pas où en est le projet, parce que maintenant on arrive sur des émissions récentes et les gens se rappellent peut-être un peu mieux, à savoir la création dans cette boîte de déménagement d'un, comment dirais-je, d'un espèce de salon de défonce, on va dire, effectivement un salon de défonce, puisque on vous permettra de casser qui des assiettes, des soupières, des télés, des ordinateurs, etc. Tout ça pour essayer d'évacuer la haine, la rage et la rogne contenue.
Le 14 juin, on a eu, alors j'ai marqué l'association où Tom est président. Alors c'est quoi déjà qu'elle s'appelle, l'association où Tom est président?
C'est la semaine dernière. Ah non, c'était il y a 15 jours.
Il y a deux semaines, ouais.
Voilà.
Donc, ça s'appelle Saint-Gilles Nature Environnement, SGNE.
Ah pourquoi les écolos?
Environnement Planète. J'aurais dû l'ajouter.
Grit
Again. Environnement Planète.
Pourquoi
bleu.
Les écolos, bleu. Vous avez toujours des acronymes qui sont imprononçables.
Mais j'en sais rien, moi. C'était comme ça quand je suis arrivé.
C'est pas lui qui l'a créé.
Elle avait 10 ans. J'avais 10 ans.
Et il a pris le pouvoir par un coup de force.
Voilà. Et puis la semaine prochaine. De toute façon, on leur tourne.
Et puis on va peut-être quand même pas parler des émissions l'année prochaine.
Bah si. parce qu'on va commencer très 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 fort avec au moins 200 places à gagner, j'en dis pas plus. Allez, on vous dit salut, vous
et
retrouvez
surtout,
le best of cet été.
Essayez de vous reposer, n'allez pas vous noyer, n'allez pas vous faire bouffer par un requin. C'est à peu près tout ce qu'on peut dire puisque Jean-Louis il veut qu'on
salut
coupe. Jean-Louis il veut qu'on coupe.
À l'année prochaine.
Allez,
enfin,
salut.
Allez,
l'année prochaine,
l'année prochaine. Mois de septembre.
Au revoir.
Au revoir. Coucou.